Bienvenue sur le podcast de Moodstep. Je suis Johanna Kellen, opératrice de turbine à bonheur et votre hôte pour ce podcast, où deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, nous recevons un invité pour parler des clés de la connaissance de soi et des moyens de les mettre en œuvre dans les équipes. Vous retrouverez ces entretiens et les liens cités pendant l'interview dans l'article posté sur moodstep.com. J'espère que vous apprécierez ce tout nouvel épisode. Bonne écoute. Et bonjour Julien.
Bonjour Johanna.
Merci beaucoup d'avoir accepté de venir un peu exposer ton savoir ici sur ce podcast.
Merci à toi de m'inviter.
J'aimerais qu'on commence par que tu nous dises un peu qui tu es en 3 minutes, voilà, une bio un peu express.
D'accord. Bah écoute, moi je suis coach spécialisé donc en gestion du stress, en bien-être au travail. J'apprends aux gens à se sentir bien dans leur métier en dépit des situations complexes, déstabilisantes, des rythmes effrénés parfois au travail. J'enseigne la méditation, donc je suis praticien en technique méditative. Donc je transmets des techniques issues notamment du sport de haut niveau aussi, pas que de la méditation, mais aussi des techniques de visualisation. Et je combine tout ça en tant que levier de coaching pour identifier et développer chez les personnes des compétences qu'on appelle les soft skills. Donc ce sont des compétences qu'on n'apprend pas forcément à l'école, mais qu'on utilise pourtant chaque jour, hein, telles que la créativité, la confiance en soi, la capacité à transmettre des messages de façon claire, la capacité à avoir une prise de décision efficace, rapide, en tout cas sereine, la capacité aussi de cohésion, hein, parce que les soft skills sont des compétences contagieuses qui permettent de fluidifier les relations interpersonnelles, de sentir mieux avec autrui, sentir mieux aussi dans son rapport au travail, hein. Parfois c'est difficile de jongler aussi entre la vie personnelle et vie professionnelle. Donc moi, par mes outils de coaching tels que la méditation et les techniques de visualisation, j'invite les gens, donc c'est des entreprises, c'est des particuliers, c'est aussi des étudiants, j'interviens aussi beaucoup en école, à apprendre à identifier et à mobiliser en temps réel leurs ressources. Parce qu'en fait, ce sont des ressources qu'on a tous à disposition. Les soft skills, on part du principe qu'on les a tous. Je dis on parce qu'on a développé une approche avec deux autres auteurs qui s'appelle le Reflex Soft Skills, qui est un livre qui a été édité aux éditions d'Uno. Et on s'inspire des pratiques anglo-saxonnes et notamment de ce qui est fait aux États-Unis. Hein, les soft skills sont enseignés aux États-Unis pour justement dire qu'on les a tous en nous, ces soft skills. Et on en a certaines qui sont réveillées, d'autres non. Certaines qui sont activées, d'autres pas. Et à nous d'apprendre à les identifier. On peut s'inspirer d'autrui, on peut s'inspirer de plein de personnes pour activer ces soft skills. Donc voilà un petit peu mon métier.
Pourquoi ce terme de soft skill ? Ça donne l'impression que ça vient des États-Unis, que c'est nouveau. Est-ce que tu parles pas seulement de savoir-être ?
Alors, c'est pas seulement savoir-être, ça englobe le savoir-être, mais ça vient sublimer le savoir-faire, si tu veux. C'est vraiment, ça vient se diluer dans une compétence technique. Je prends un exemple, pour faire un tableur Excel, par exemple, qui demande une compétence technique, eh bien, il va falloir de la concentration, de la prise de recul, de la mémoire, par exemple, pour se rappeler peut-être des formules Excel dont on a besoin pour faire ça. Et donc, on va mobiliser des ressources. De façon souvent inconsciente, bah là l'idée de la philosophie des soft skills, c'est de les activer de façon consciente, et puis plus on les active consciemment, plus ça va devenir un réflexe, et finalement ça va venir sublimer notre quotidien.
Et en quoi c'est nouveau ? Pourquoi ce terme anglais ? C'est ça qui me perturbe un peu.
Alors, en fait, c'est un terme anglo-saxon, parce que déjà, les anglo-saxons n'ont pas tout à fait la même culture que nous, on va dire managériale, parce que c'est un terme qui est plutôt utilisé dans le monde du management actuellement, dans le sens où on a longtemps penser en Europe que les compétences techniques suffisaient, ce qu'on appelle les hard skills, compétences dures, techniques. Aux États-Unis ou dans le monde anglo-saxon, au Royaume-Uni notamment, on pense qu'il y a des aptitudes tout autres que l'on ne met pas nous sur un CV en tant que Français, mais qui sont quand même, on va dire, de vraies compétences. Et donc, les anglo-saxons les ont appelés soft skills. Si on traduit littéralement, ça veut dire compétences douces. En fait, c'est pas vraiment un terme traduisible. C'est pour ça qu'on garde un petit peu le terme. C'est que c'est finalement une sorte de philosophie dont on va s'imprégner Et on va garder ce terme qui est assez pratique finalement parce que bah, parfois il y a certains termes en anglais qui coulent mieux en tout cas de notre point de vue tels que moi par exemple le well-being je trouve ça plus coulant que le bien-être même si on peut parler de bien-être et moi je me dis moi-même coach en bien-être professionnel mais voilà il y a des termes qui coulent un peu mieux et puis bah, ce terme-là on l'a gardé mais si on nous demande ce que sont que les soft skills bah, finalement ce sont des compétences intrinsèques personnelles interpersonnelles même qui permettre de mieux vivre, de fluidifier son quotidien.
Du coup, quelle différence tu fais avec l'intelligence émotionnelle?
Alors, bah, pour construire cette approche des soft skills, parce qu'on a développé une méthode avec mon entreprise qui s'appelle Créa Présent, qui s'appelle la méthode Créa Présent d'ailleurs, on s'est inspiré de tout un tas de courants. Donc les pratiques méditatives, les neurosciences, on a pioché dans tout un tas de courants, la psychologie positive aussi, et aussi l'intelligence émotionnelle avec notre cher Daniel Goleman qui a popularisé ça. Et donc, si tu veux, ça, on s'inspire de divers courants pour puiser dans des leviers qui vont permettre de développer des compétences. Donc on va dire que notre message fort, c'est que pour nous, on parle de compétences. Et pour développer, pour activer ces compétences, des compétences qu'on va pouvoir vendre, entre guillemets, sur le marché du travail, hein, devant un recruteur, devant un manager, on va être capable de dire j'ai travaillé ces compétences-là. Et comment je les ai travaillées? Bah, peut-être avec des principes d'intelligence émotionnelle, des principes de neurosciences. Voilà. Donc les soft skills s'inspirent de courants divers, tels que les neurosciences, tels que l'intelligence émotionnelle. Et donc, la différence, c'est que juste, on va puiser dans divers courants pour avoir une approche un peu globale, mais en même temps qui se simplifie, qui se résume sur la notion de compétence. Donc, ce qui nous intéresse vraiment, c'est quelles compétences je peux développer maintenant, dans le présent, à partir du contexte, qu'il soit difficile, qu'il soit imprévu, qu'il soit, on va dire même parfois non prévisible dans la dynamique actuelle de l'entreprise, eh bien, on est quand même capable d'activer des ressources, des compétences.
Est-ce que on pourrait résumer ça ou synthétiser ça en se disant que ça, le soft skill, c'est l'intelligence interpersonnelle et intrapersonnelle, donc c'est à cheval sur ces deux intelligences? Puisque j'aimerais bien voir le contour de ce que sont les soft skills, puisque ça paraît très très large en fait.
Oui, alors ça paraît large et tu as raison, c'est large puisque ça s'inspire de tout un tas de courants. C'est très bien résumé, intelligence interpersonnelle, intrapersonnelle. Mais là où il y a des indicateurs, si tu veux, qui nous, à notre sens, sont importants, c'est que déjà on les a tous. C'est-à-dire qu'il y a, certaines personnes parlent de talents ou de choses qu'on n'a pas ou qu'on va aller chercher, qu'on va activer. Nous, on part du principe que les soft skills sont déjà là.
D'accord.
Donc elles sont déjà. Il n'y a pas besoin d'aller faire 10 ans de séminaire dans l'Himalaya pour activer une sérénité. La sérénité, elle est déjà là, sauf qu'on a déjà été serein, on a déjà géré notre stress à notre façon une fois dans notre vie. L'idée, c'est de réactiver ça à partir de l'énergie du présent. Et c'est pour ça qu'on s'appelle Créa Présent, c'est que dans le présent, il y a déjà la possibilité d'activer des soft skills. Et l'enjeu, si tu veux, c'est d'adopter le réflexe de le faire. T'as déjà, dans des situations très complexes, fait preuve de gestion du stress, de créativité, d'anticipation, de prise de décision de façon optimale. Et ben, l'idée, ça va être d'utiliser ça, de ce principe-là, pour activer ça à chaque instant. Donc c'est large et en même temps, on balise un petit peu l'approche autour quand même d'indicateurs que sont les compétences. Ce sont des compétences que tout le monde a, que tout le monde peut activer maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un profil particulier pour développer ces soft skills, si ce n'est de savoir qu'on en a, si ce n'est de vouloir les activer, et si ce n'est de s'y entraîner, donc de s'entraîner à les activer régulièrement.
Donc ça veut dire qu'il n'y a pas des gens avec des aptitudes particulières aux soft skills? On n'a pas certains seraient plus doués que d'autres ou...
Alors, c'est une bonne question. En fait, ça dépend beaucoup du bagage de la personne. Par exemple, si une personne se dit, bah moi, de toute manière, je suis pas créative. Quelqu'un de pas très créatif, il y en a hein, qui pensent qu'ils sont pas créatifs. Bah, nous, notre travail en tant qu'accompagnateur, ça va être de montrer finalement déjà en quoi elle a déjà fait preuve de créativité dans sa vie, cette personne, de près ou de loin. On a même le simple fait de parler avec une personne, ça peut être créatif parce qu'il faut agencer ses mots d'une certaine façon. Donc on va essayer de pointer des éléments de créativité, petit à petit réveiller la créativité chez la personne. Donc en fait, ta question est bonne parce que il y a des facilités, il y a des personnes qui ont pratiqué pendant de longues années un sport par exemple et qui ont développé une prise de décision, une prise de recul, une confiance en eux qui est différente, donc qui ont finalement un bagage soft skills qui est plus développé. Mais en soi, il n'y a pas de personne plus douée qu'une autre, en tout cas de notre point de vue. Hein. Après, on est très ouvert aux critiques et à tout ce qui peut changer un petit peu de façon de voir par rapport aux soft skills. Mais on n'a pas plus de talent à développer les soft skills qu'un autre. On a parfois, par contre, pas de volonté ou pas d'envie ou même on n'a pas confiance dans le fait d'activer nos soft skills. Et d'ailleurs, nous, un des leviers qu'on développe, c'est la connaissance et la confiance dans son propre potentiel. Si moi, j'ai pas confiance de pouvoir gérer mon stress, bah, j'ai aucune raison de développer cette compétence. En revanche, si je m'ouvre à cette possibilité, on va trouver des leviers qui, dans un temps très rapide, si c'est fait sincèrement, si c'est fait de façon régulière, vont pouvoir me permettre d'acquérir cette gestion du stress de façon durable et puissante, en fait.
Alors, du coup, il y a toutes ces domaines des soft skills. Si je veux développer mes soft skills, donc augmenter ma compétence de soft skills, est-ce qu'il faut que je repère, par exemple, des domaines comme la confiance en soi ou la capacité à communiquer avec les autres ou je ne sais quel domaine et travailler là-dessus? Comment vous vous y prenez? Vous faites un repérage d'où en est la personne pour ensuite la faire travailler ou?
Alors, c'est effectivement un des enjeux, ça va être de savoir où on en est, mais nous, on a identifié 4 piliers qui permettent donc d'activer ce que j'appelle le cercle vertueux des soft skills. On a le premier pilier qui est la conscience. Donc conscience, ça peut être conscience de tout un tas de choses, mais a priori, et nous, ce qui nous intéresse ici, c'est conscience de ces soft skills. Quels sont l'état des lieux actuels, on va dire, de nos compétences? Est-ce que je me considère comme quelqu'un de créatif? Est-ce que je me considère comme quelqu'un d'à l'aise à l'oral? Est-ce que je me considère comme quelqu'un étant capable de gérer mon stress? Bref, on fait un état des lieux. Mm-hmm. Déjà, ça permet de se positionner, effectivement. Donc, comme tu le dis, c'est une sorte d'analyse de la situation. Donc ça, c'est le premier pilier conscience. Et ensuite, on va avoir un deuxième pilier qui est l'esprit d'entreprendre. Donc, c'est-à-dire qu'on va choisir, décider de travailler, d'entreprendre le travail de tel ou tel soft skills. Par exemple, je me décide à m'intéresser à ma créativité. Ça m'intéresse, je sens que je peux le faire, je sens que je peux être plus créatif dans des moments où, a priori, je ne le suis jamais. Et ben, je vais m'intéresser à ça. Donc, je vais entreprendre ça. Troisième pilier, c'est la confiance. C'est-à-dire qu'on identifie que plus on s'intéresse à certaines notions, telles que la créativité, plus je me rends compte qu'en fait, je prends confiance dans le fait d'être créatif. Je suis capable de le faire même quand il y a des gens. Je suis capable d'apporter mes idées, d'oser des choses. Et finalement, plus je le fais, plus je vais prendre confiance et plus je vais être capable de le faire à d'autres moments, des moments où d'habitude, je le fais pas. Donc en fait, je vais créer de nouvelles connexions neuronales. On parle de plasticité cérébrale. Mon cerveau va être plus à même de retrouver cette créativité dans des temps plus rapides et de façon plus facile. Et puis, il y a un dernier pilier qui, nous, est très important à nos yeux, c'est la synergie. À savoir que quand je vais commencer à développer des soft skills, déjà, ça va avoir un effet auprès de mon entourage. Les gens vont se dire, ah, tiens, t'es en train de changer quelque chose, là, t'es en train de, ils sont pas obligés de nous le dire, hein, mais en tout cas, leur attitude va prendre conscience de, il y a un petit changement en nous qui s'opère. Il y a quelque chose qui s'opère. Et puis, la synergie, c'est aussi le fait de pouvoir s'inspirer des autres. Savoir que les autres, on observe que lui aussi, il fait preuve de créativité, il est capable, j'observe comment il fait parce que ça m'inspire, j'aime bien regarder, donc j'observe et en fait on se rend compte que les soft skills sont contagieuses. Plus j'observe quelqu'un de créatif, plus je vais être créatif, plus j'observe quelqu'un de confiant avec un leadership serein, etc., plus je vais activer mon leadership, pareil pour la sérénité. À l'inverse, si j'observe quelqu'un de très stressé, je vais être dans les meilleures dispositions pour l'être. Ça ne veut pas dire que je vais l'être, mais en tout cas mon cerveau va être préparé au stress. Donc c'est vraiment finalement 4 piliers où on va partir de nous-mêmes, de notre état des lieux, de notre conscience, de où on en est, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on souhaite en fait, parce qu'il faut vraiment vouloir se lancer dans cette dynamique-là, de développer de nouvelles compétences, même si ces compétences, elles sommeillent en nous, faut quand même les réactiver, les développer, et puis prendre confiance dans cette dynamique, je suis capable de m'améliorer, je suis capable de m'améliorer rapidement, et puis ça peut être par le biais de tout un tas de disciplines, ça peut être le travail, mais ça peut être aussi dans le sport, dans les relations personnelles. Je peux m'entraîner à mes soft skills, je peux entraîner mes soft skills. Et puis on va utiliser, c'est entre, avec des grosses guillemets, mais on va s'inspirer des autres, hein, de notre entourage pour puiser déjà dans leurs soft skills, observer qu'il est, se donner confiance, on va dire, dans le fait que certaines personnes font preuve de soft skills, pourquoi pas moi? Et puis se rendre compte que quand nous-mêmes on active nos soft skills, ça crée dans notre entourage une énergie qui va être différente et qui va sublimer encore plus ces compétences-là. Et parfois, ce qu'on observe, c'est que certaines personnes nous font des remarques sur nos soft skills qu'on n'avait pas identifiées. Ils nous disent eh mais si, tu peux être créatif, tu peux prendre tes décisions rapidement, tu l'as déjà fait, je t'ai déjà vu le faire.
Ça va être ma dernière question sur les soft skills. Tout à l'heure, tu as un peu évoqué le fait qu'on pourrait utiliser donc ces compétences, même dans un entretien d'embauche, ou en tout cas les faire prévaloir dans notre travail, ou là où on travaille, ou dans les espaces de recrutement. Du coup, ça me plonge un peu dans le futur. Comment tu imagines le monde si tout le monde développait ses soft skills? Qu'est-ce qu'on recherche en fait? Quel monde on recherche grâce à ça?
Déjà, je pense que ça permettrait de replacer l'humain au cœur de l'entreprise. Hein. On a beaucoup fonctionné depuis quelques décennies sur un modèle où on s'oublie un peu nous-mêmes. Hein. Il y a 4 millions de Français qui sont stressés chroniquement au travail, 3 millions qui seraient au bord du burn-out. Il y a beaucoup de souffrance au travail. Il y a beaucoup de non-dits, il y a beaucoup de problèmes de communication. Et donc, finalement, replacer le curseur sur les compétences humaines, on peut parler aussi de compétences humaines, hein. Eh bien, ça permettrait de réactiver des richesses qui sont là, mais qui ne sont pas. On parle beaucoup de richesses financières. Hein, le curseur, il est beaucoup axé sur l'argent. En France, il y a un taux de chômage qui est énorme. Ces soft skills-là, peut-être qu'il y aurait un véritable enjeu à mettre un focus dessus pour se dire, il n'y a pas que le CV, il n'y a pas que mes formations, il n'y a pas que mon diplôme. Il y a aussi autre chose en moi qui me permet peut-être de créer demain mon entreprise, peut-être de me mettre à mon compte avec un bagage qui est un bagage de ressources, de richesses humaines qui va me permettre de faire face à toutes ces exigences-là. À savoir que le monde du travail va être bouleversé, hein, il y a de moins en moins de salariés dans les entreprises. On travaille différemment que il y a quelques années. Hein. Certains travaillent à distance, d'autres dans des open space. Il y a des entreprises qui font de plus en plus appel à des consultants externes. Donc finalement, on est beaucoup plus amené à repenser les relations humaines. Un travail, on le garde plus toute la vie. On va le garder peut-être 2 ans, 1 an, 3 ans. Donc on va être amené, quoi qu'il arrive, à se vendre beaucoup plus. Ces compétences-là permettent de se vendre. Et puis, il y a aussi une histoire, je crois, de génération. C'est-à-dire que tu me disais quelle société on viserait. Peut-être que notre génération ou les générations qui vont venir vont être porteuses d'une vision différente de l'humain, des richesses humaines. Et peut-être que justement, cette génération va en avoir besoin. Moi, j'interviens des fois dans des écoles où les jeunes n'ont pas confiance en l'avenir. Pour eux, le monde du travail, c'est noir, ça leur fait peur. Et je pense que ça peut être justement une perspective en leur disant vous avez des richesses, vous avez des compétences qui, quoi qu'il arrive, vous permettront d'être partie prenante de l'avenir. Hein. C'est Christophe André qui dit que l'avenir, c'est pas ce qui nous arrive, c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on en fait maintenant. Et donc, je pense que les soft skills, demain, peut-être permettront de rendre les gens plus autonomes, plus créatifs, moins dépendants peut-être des organisations, des entreprises, moins dépendants peut-être des politiques, ou en tout cas, entretenir un rapport différent avec eux et redonner confiance, peut-être tout simplement. Une société où on a confiance, on est le pays qui consomme un des plus grands consommateurs d'anxiolytiques en Europe, même dans le monde. On est très anxieux, on a peur de l'avenir. Donc je pense qu'il y a peut-être un enjeu qui est une vision qui peut paraître utopiste, mais une société un peu plus confiante, un peu plus sûre de son potentiel, de ses ressources, de sa richesse.
Ok, merci. Alors, on va en finir là pour le sujet des soft skills. Dans chaque podcast, en fait, il y a un petit questionnaire. Est-ce que tu es prêt pour répondre à mes questions mitraillettes? c'est pas très soft skills, ça, mitraillette.
Je suis prêt.
C'est vrai. Donc, déjà, il y a Pour moi, il y a quelque chose d'important. En tout cas, j'ai, dans mon parcours, j'ai beaucoup appris de mes plantages, de mes erreurs, de toutes les choses, toutes les épines que j'ai eues dans les pieds. Et je voulais savoir, est-ce que toi, dans ton parcours professionnel ou même personnel, peut-être que tu pourrais nous raconter une erreur que tu as faite dans ta carrière et une leçon que tu en as tirée?
Ouais, alors bon, moi j'aime pas trop parler d'erreurs, mais bon, je vais jouer le jeu parce que
Comment
dans mon
t'appellerais
métier,
ça alors?
non, mais si, je vois ta question et c'est vrai que dans mon métier, on considère l'erreur comme un état d'esprit. Finalement, on dit que il y a une phrase que j'aime beaucoup de Richard Bartlett qui dit que l'échec n'existe pas lorsqu'il s'agit de développer ses capacités intuitives. Et c'est vrai que moi j'ai fait des choix dans ma vie qui parfois je les ai entre guillemets sur le moment regrettés, mais après je me dis que finalement ça m'a permis de développer certaines compétences ou en tout cas de m'orienter dans des voies particulières. Mais pour répondre à ta question, il y a quelques années, moi j'étais passionné, alors rien à voir avec ce que je suis aujourd'hui, je faisais de la finance de marché, j'ai failli en faire mon métier et je m'étais investi pendant mes études dans une année de césure où j'avais fait un stage en finance de marché où je devais vendre des fonds financiers. Et j'ai ressenti très très vite, je m'étais engagé pendant 10 mois auprès de ce manager, comme quoi j'allais faire ma césure pendant 10 mois auprès d'eux, et je me suis aperçu très très vite que c'était pas du tout, ça me correspondait pas du tout. J'allais le matin, tous les matins avec la boule au ventre, au travail. Et finalement, je me suis aperçu sur le moment que finalement c'était une erreur. J'aurais pu le considérer comme une erreur. Et du coup, bah j'ai utilisé entre guillemets cette erreur pour me rediriger vers l'opposé, vers le bien-être au travail, vers la RSE, la responsabilité sociale des entreprises. Et finalement me dire que bah s'il y a des gens qui peuvent aller tous les matins au boulot avec la boule au ventre telle que je l'ai vécue, bon c'était en stage à l'époque, hein, donc c'était pas non plus, j'étais pas engagé dans un CDI, c'était pas pareil que d'autres personnes qui sont engagées, mais bah, je me dis qu'il y a possibilité quand même de travailler là-dessus parce que c'est quand même dommage d'aller dans un travail qui occupe presque 60-70% de nos journées, de mal vivre ça, quoi. Et du coup, bah, j'ai renversé la vapeur en faisant mon métier. Donc c'est entre guillemets une erreur qui m'a peut-être porté vers ce que je fais aujourd'hui et finalement j'en suis content, je suis peut-être content d'être passé par là.
Super. Deuxième question, attention. Quelle technique ou outil t'as le plus fait avancer personnellement ou professionnellement? Est-ce qu'il y a...
Ouais, bah incontestablement la méditation, sans là,
Je
sans, c'est assez
savais,
clair.
je le
Hein.
savais.
Ouais, je pense que j'avais déjà lancé des signaux. Non, mais c'est vrai, c'est même pas tellement pour faire de la pub ou quoi que ce soit. C'est que déjà ça a transformé ma vie d'un point de vue personnel puisque je suis un ancien stressé, mais de ouf quoi. J'étais vraiment à l'école, j'étais capable de perdre totalement mes moyens devant une feuille d'examen et de ne rien faire. Du tout, même si j'avais révisé, même si j'étais selon moi au top, bah, le jour même, je perdais totalement mes moyens. Donc la méditation m'a permis de revenir vraiment dans l'instant présent, au contact de mon potentiel, au contact de moi-même, de mieux me connaître, parce que pour moi, c'est un outil de connaissance de soi direct, puisque ça consiste en ça, en fait, hein, à s'observer soi-même, observer l'expérience du moment sans effort, sans chercher à faire quoi que ce soit. Et du coup, ça permet de comprendre beaucoup de choses sur soi-même. Et d'un point de vue, bah, du coup, professionnel, ça améliore, bah, son rythme, on va dire, son rythme de vie, hein. Enfin, moi, depuis que je médite, ça fait une dizaine d'années maintenant, je tombe moins souvent malade, je suis plus confiant, ça améliore énormément les rapports à autrui. C'est pour moi un ressourcement. Et alors, quand je parle de méditation, j'aime bien quand même insister sur le fait que pour moi, la méditation, c'est un état naturel. C'est pas quelque chose de lunaire. On n'a pas besoin encore une fois, d'aller dans l'Himalaya ou de s'asseoir en tailleur pour méditer. On peut méditer debout, en marchant dans le métro, en faisant du sport. L'idée, c'est vraiment un état naturel. On a tous vécu l'état méditatif quand on était bébé. Hein. Les bébés sont dans un état méditatif, dans l'instant présent, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix que d'y être pour apprendre la vie. Et du coup, c'est pour moi, c'est plutôt retrouver cet état-là, l'état méditatif ou en tout cas la pratique méditative, dans des moments qui seront pour nous. On va se réserver 5 minutes, 10 minutes chez nous ou ailleurs. On peut s'entraîner au début seul dans un endroit calme, hein, c'est pas un souci. Mais en tout cas, pour moi, c'est un outil naturel.
Quelle est selon toi la qualité primordiale à développer pour être un bon manager? C'est marrant parce que ça touche aux soft skills comme question, même si elle est commune à tout le monde.
Effectivement. Alors, je pense qu'il y en a plusieurs, hein, mais s'il y en a une qui me vient, alors bon, pareil, c'est intimement lié à ce que je fais, mais c'est, je dirais, la gestion des états négatifs. Alors, négatifs entre guillemets, mais tous les états désagréables qu'on peut vivre au quotidien. Pourquoi? Parce que un manager est quelqu'un normalement de très observé, hein. Il a des équipes, il a des collaborateurs, il est en contact avec beaucoup de personnes. Et quand on observe quelqu'un, hein, on le sait maintenant d'un point de vue neuroscientifique, quand on observe quelqu'un dans un état particulier, bah, notre cerveau va créer les mêmes dispositions neuronales que comme si nous aussi on vivait cet état. Et donc du coup, un manager qui ne parvient pas ou qui n'est pas formé à gérer ses émotions, à gérer ses états négatifs, ça, tels que le stress par exemple, eh bien, ça va poser problème auprès de son entourage parce qu'il va y avoir un effet de contagion qui va pas être maîtrisé. Et du coup, alors sans parler de contrôle, l'idée c'est plutôt de gérer, d'apprendre à gérer ses états négatifs parce que c'est possible de le faire. Hein. Encore une fois, ça s'entraîne comme n'importe quel sport. Par exemple la méditation, mais par d'autres outils. Il n'y a pas que la méditation, il y a d'autres outils qui permettent d'apprendre à gérer ça. Parce que le manager, à mon sens, doit avoir ce rôle de contagion, parce qu'il l'a déjà, il diffuse une certaine énergie, il mène des projets, il emmène les gens avec lui, ou pas d'ailleurs, mais bon, a priori, c'est plutôt son rôle. Et du coup, s'il n'a pas cette capacité à prendre du recul, à garder son sang-froid, à revenir dans un état de présence, de calme, en dépit des conditions qui sont parfois déstabilisantes, eh ben, ça va se répercuter auprès de ses équipes et finalement, il va y avoir une sorte d'effet domino qui va s'opérer dans l'organisation de l'entreprise.
Autre question, quel livre conseillerais-tu à la lecture? Un livre qui vraiment t'a bluffé, t'a aidé dans ton parcours?
Alors, tu parles d'un point de vue managériel ou tout
En fait,
compris?
je te dirais oui, managériel, mais sachant que je pense qu'on peut lire un très bon roman et avoir des prises de conscience qui peuvent servir dans son métier. Donc, je serais beaucoup plus large que
D'accord.
juste un livre de management.
Il y en a un qui m'a. Alors, j'en ai plusieurs en tête, hein, forcément, mais
Ah, va falloir
alors
choisir, va falloir choisir.
j'ai fait une interview où j'en donnais un, donc là, je vais en donner un autre, qui s'appelle Le cerveau du bonheur, hein, qui a été écrit par Rick
Ah oui.
Hanson, peut-être que tu connais.
Ouais.
Et pour moi, alors, on peut l'interpréter de plein de façons, ce livre, mais il a une importance capitale sur la capacité à s'imprégner des moments positifs, parce que du coup, Rick Hanson démontre quand même dans son ouvrage que plus on s'imprègne, pas seulement vivre, hein, mais s'imprégner, c'est-à-dire une fois qu'on vit un moment positif, bah, on prend le temps de s'en imprégner. Là, je viens de vivre un moment positif. Bah, plus on le fait, plus notre cerveau va être capable de recréer ces connexions-là et donc être capable de revivre facilement et rapidement ces moments positifs. Et du coup, plus on s'imprègne de ces moments positifs, sans forcément les activer volontairement, mais je sais pas, on a vu un bon film, on a passé un bon moment, on a été boire un verre avec des amis, et finalement c'est agréable pour nous. Ben, le fait de se rappeler de ça, de se dire, tiens, là j'ai vécu ça, je l'ai vécu, moi je l'ai vécu et je m'en imprègne, eh bien notre cerveau va s'en rappeler et ça va le modifier en fait, ça va créer ce qu'on appelle, hein, j'en parlais tout à l'heure, une plasticité neuronale où on va créer de nouveaux tissus. Et du coup, dans d'autres situations qui ne seront pas forcément agréables, dans d'autres situations qui ne seront pas forcément bénéfiques, eh bien, on va être plus à même de réactiver ça parce qu'on s'en est imprégné. Donc, il suffit pas seulement de s'entraîner, entre guillemets, au bonheur et à sentir bien. Il faut aussi, je pense, en tout cas, c'est ce que raconte ce docteur et ce qui est dit dans cet ouvrage, c'est que plus on s'en imprègne de ces moments-là, bah, plus on va être à même de réactiver ça, de faire émerger ça.
Et dernière question, ou qui n'est pas vraiment une question, est-ce que tu as une citation qui pourrait un peu résumer ton action ou ce en quoi tu crois?
Ouais, bah, il y en a une que on va dire qui me caractérise bien, qui est une citation d'Eckhart Tolle, qui est « Soyez le vigilant gardien de votre espace intérieur ». Et pour moi, cette citation a beaucoup de sens, même au-delà de la citation elle-même, parce que je dirais que il suffit pas d'être vigilant gardien de son espace intérieur, donc de savoir, comme je disais tout à l'heure, gérer ses états négatifs ou autres, hein, d'ailleurs. Parfois, on n'a pas envie de se laisser envahir par des pensées qui peuvent être positives, mais on est concentré à autre chose, donc on garde un peu son univers mental vierge de tout parasite, entre guillemets. mais ça joue aussi sur l'extérieur, pas que sur l'intérieur. C'est-à-dire que quand on est on va dire maître de son espace intérieur, eh bien on va être plus à même justement d'entretenir peut-être des relations plus fluides avec autrui, parce que nous-mêmes notre univers est plutôt maîtrisé entre guillemets, calme. Il n'y a pas de parasites en nous qui font qu'on va avoir l'esprit ailleurs quand on va parler à quelqu'un, par exemple. Donc c'est pour moi une citation qui est déjà qui nous sert pour nous-mêmes, mais qui va aussi avoir un impact auprès de notre entourage.
Ben merci beaucoup. Je mettrai dans les commentaires du podcast le livre que tu as cité et ta citation. Ça pourra intéresser certains. Comment est-ce qu'on peut te contacter? Où est-ce qu'on peut te retrouver si on a envie d'en savoir un peu plus sur toi?
Alors, vous pouvez sur donc le site creapresent.fr. Donc c'est creapresent, c'est CREAPRE. ZENT, donc c'est avec un Z en fait, le présent avec un Z pour le côté zen. Donc vous verrez un peu ce qu'on fait sur les soft skills au sein de Créa Présent. Et puis il y a un nouveau site qui va apparaître bientôt, qui va être la Now Connection, mais là c'est un petit teasing que je fais.
Qu'est-ce que c'est que ça, la Now Connection?
Avec mon ami Alexis de Souche, qui est une méthode pour optimiser ses ressources mentales et émotionnelles. En fait, 47% de notre journée environ, hein, c'est une étude scientifique, c'est des scientifiques qui se sont amusés à mesurer ça, on serait perdu dans nos pensées. Et du coup, cette perte, on va dire, cette perte dans nos pensées, bah, le problème, c'est que ça nous prend de l'énergie, puis ça crée parfois des états compliqués émotionnellement. Et du coup, l'enjeu, bah, c'est de diminuer ce pourcentage, de le ramener au now, au présent, à ce qui se passe maintenant, où on va être créateur de nos pensées et donc de notre dynamique. Donc, c'est une méthode qui va utiliser la mindfulness, des techniques méditatives et notamment la visualisation. Pour avoir justement cette capacité à utiliser le meilleur de soi-même. Mais là, c'est un petit teasing. En tout cas, l'essentiel, c'est plutôt actuellement Créa Présent. Et on vient de lancer, là, Créa Présent, un club soft skills. Donc, on propose aux gens d'accompagner, de rencontrer, d'échanger sur les soft skills et puis de rencontrer des experts là-dessus.
Et ça, pour le club, on trouve ça sur le site.
Sur creapresent.fr.
Okay. Et tu es sur Twitter ou sur... Est-ce que tu utilises les réseaux sociaux ou est-ce qu'on peut te suivre sur les réseaux sociaux?
Oui, sur LinkedIn, sur Twitter. J'ai une page Facebook qui s'appelle La Semaine sans stress. Vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup d'actions dessus. Mais l'idée, c'est de... Voilà,
quelle promotion d'enfer tu fais pour ta page?
Non, mais là, tout de suite, c'est pas une...
D'accord. Alors, Créa Présent, LinkedIn et Twitter. C'est ça?
Voilà, Twitter, c'est déjà pas mal. Et puis, n'hésitez pas à réagir sur cette interview, sur ce podcast. Je ne sais pas si c'est possible, si les gens peuvent.
Alors, sur mon blog, moodstep.com, sur iTunes, c'est pas toujours très facile de réagir à des podcasts. On peut laisser des commentaires sur la chaîne.
Eh bien, laissez plein de commentaires sur la chaîne Moodstep du jour.
Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir transmis une partie de ton savoir.
Mais ce qui n'est pas que mon savoir.
Le savoir universel même.
Le savoir universel, exactement. Merci à toi, Johanna, pour l'invitation.
Reviens me voir quand tu lanceras ton nouveau projet. Ça fera une nouvelle émission.
Voilà, très bien. Bah, écoute, avec grand plaisir.
Merci à tous et à très bientôt. Vous retrouverez toutes les informations sur ce podcast sur moodstep.com, moodstep.com. Vous pouvez également recevoir tous les épisodes directement dans votre boîte mail en vous abonnant à la lettre d'information. Et si vous souhaitez que je traite un sujet en particulier, envoyez-moi un message, toujours sur le site. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée.